à toutes et à tous, nous sommes le lundi 7 avril, vous écoutez Info Club Sandwich, votre quotidienne d'actualité locale et associative. Pour cette émission, je suis en compagnie de Benjamin qui réalise l'interview du jour. Je te laisse nous présenter ton invité.
Bonjour, donc aujourd'hui pour l'interview je suis en compagnie d'Enlogique N, bonjour. Tu es assistante d'exploitation au Ciné Saint-Leu, merci pour nous accorder un peu de temps. Pour commencer, est-ce que tu peux nous expliquer ton rôle au sein du Ciné Saint-Leu ?
Alors, mon rôle au sein du Ciné Saint-Leu, il est à la fois hyper simple et complexe. J'assure plusieurs tâches. Assistant d'exploitation, c'est juste un mot pour me mettre dans une caste, quoi. J'assure beaucoup la programmation avec notre directeur Boris Thomas. Notamment, on assure aussi la programmation du cinéma Orson Welles. Okay. Donc, je travaille beaucoup plus aujourd'hui sur la prog du Orson Welles que celle du Ciné Saint-Leu. C'est juste, enfin voilà, en ce moment, on fonctionne comme ça. Je fais beaucoup de communication avec William, que vous avez déjà reçu ici à Radio Campus. Voilà, dès qu'il a besoin d'une tête pour une vidéo TikTok ou d'écrire des textes pour le programme, bah, je suis disponible. Ou même pour lui tenir la caméra de temps en temps. je suis aussi assistante de William Tessier. Et puis, j'ai une grosse partie sur... les mots sont un peu... Moi, je trouve ça un peu vulgaire, la conquête du public jeune. Je trouve que le mot conquête est un peu vulgaire, mais c'est comme ça qu'on le met dans les cases un peu CNC, etc. Où en fait, moi, je vais essayer de rentrer en contact avec le public jeune. Le public jeune, c'est le public 15-25, en fait, où je vais assurer des missions, où je vais, par exemple, les dernières années, j'ai fait des ateliers de programmation sur le long cours qui s'appelait Ciné Story. J'encadre la journée des étudiants au cinéma. Vous avez reçu à Radio Campus Enzo il y a quelques semaines.
Oui.
Pour cette journée du 29 avril, on a aussi des ateliers de ciné-club avec des étudiants. Et puis, on essaye de réfléchir à une programmation tout simplement moins élitiste et un peu plus excitante.
Voilà. D'accord. Et du coup, toi, ça fait combien de temps que tu travailles au Ciné Saint-Leu ?
Ça fait depuis la première réouverture des salles post-Covid, donc en juin 2020.
Et qu'est-ce qui t'a amené à faire ce poste ?
Alors, j'ai erré un peu pendant quelques années. J'étais comédienne, avec des études assez longues. Enfin, j'adorais être à la fac, donc en fait, j'ai fait plusieurs masters, j'ai fait plusieurs licences. Enfin, je crois que comme je trouvais pas trop ce que je voulais faire, je restais à la fac par sécurité. Mais j'ai été beaucoup comédienne jusqu'au moment où j'ai un peu réfléchi à ce que ça me plaisait pas trop, en fait, d'être comédienne. Et j'ai réfléchi à ce que j'aimais le plus faire dans la vie. Et ce que j'aimais le plus faire dans la vie, en fait, c'était d'écrire sur les films, c'était de voir des films. J'avais un blog à l'époque, j'écrivais aussi beaucoup sur faitpasgenre.com, qui est un webzine sur le cinéma de genre, qui est toujours très très actif aujourd'hui, hein, que j'ai quitté parce que je manquais de temps, mais qui est toujours là. Et puis, en réfléchissant à ce que je voulais faire, je me suis rendu compte qu'il existait des métiers dans le cinéma qui pouvaient correspondre à mes envies. Et puis, j'ai contacté Boris, qui me connaissait déjà bien parce que j'étais une spectatrice assidue du Ciné Saint-Leu. Et que le Ciné Saint-Leu étant un cinéma assez petit, finalement, on le connaît très bien, nos spectateurs et spectatrices. Donc ça, c'est super chouette. Et c'est très humain, en fait. Oui, j'aurais du mal à...
C'est pas un cinéma commun.
Ouais, j'aurais du mal à partir dans un grand ciné, ne pas avoir contact avec le public. Et voilà, il m'a proposé de faire un stage de plusieurs mois. Donc, je me suis réinscrite à la fac pour faire un autre master, pour pouvoir faire le stage. Et puis, à l'issue de ce stage, en fait, finalement, j'ai travaillé un peu au Festival du film. Mais voilà, j'ai été ensuite accueillie les bras grands ouverts au sein de l'équipe de Ciné Saint-Leu.
Et du coup, est-ce que tu peux nous raconter un peu les missions que tu fais au quotidien dans le Ciné Saint-Leu ? Est-ce que c'était une journée type ou c'est vraiment différent tous les jours ?
Alors, j'ai des journées... C'est pas différent tous les jours, mais j'ai pas la même journée tout le temps non plus. Il y a des jours où je vais regarder 3-4 films, il y en a d'autres où je vais vadrouiller un peu partout. Je peux aller à la fac, je peux avoir des rendez-vous en extérieur. Beaucoup, par exemple, je fais aussi partie du comité de réflexion 15-25 de l'AFCAE, donc l'Association Française des Cinémas Arts et Essais. Où on a des visios une fois par mois ou des déplacements sur Paris et en région pour se rencontrer entre groupes. Enfin, ce groupe, en fait, il est constitué de d'un ou deux représentants de chaque région de France. Et du coup, on peut échanger sur les films, on peut essayer de comprendre comment donner envie aux plus jeunes de revenir en salle, en fait. Même si pour moi, je trouve que l'envie, elle est toujours présente. En tout cas, on est peut-être un cinéma d'exception, mais j'ai l'impression que nous, qu'on n'a pas besoin de venir les chercher forcément plus que ça. Il y a d'autres journées où, comme aujourd'hui ou demain, dès que je vous quitte, je vais tout de suite retourner sur la grille du cinéma Orson Welles pour la rendre le plus correctement, la faire la plus correctement possible et la rendre la plus vite possible. Il y a je fais vraiment plein de choses. J'ai des journées types, mais je n'ai pas toujours le même programme.
D'accord, ça change régulièrement. Et est-ce que tu peux nous expliquer un peu les difficultés et ce que tu préfères faire au Ciné Saint-Leu?
Ah, c'est une bonne question, ça. Ce que je préfère faire au Ciné Saint-Leu, il y a beaucoup de choses. Je crois que j'aime bien regarder des films, déjà, parce que je suis un peu, je suis un peu dans ma bulle, j'ai mon casque, je suis dans mon ordi, je suis tranquille, personne ne m'embête. Ça, j'aime bien. Après, il y a aussi une phase difficile de ça, c'est qu'avoir 3-4 films par jour, on ne voit pas que des choses merveilleuses. Donc, parfois, les films bien nuls, où je me force, que je me force à regarder jusqu'au bout, c'est assez épuisant. Je crois que c'est un peu bête, mais je crois que... Peut-être la chose que je préfère, vraiment, c'est de rencontrer le public. Donc, présenter les films en salle, traîner dans les couloirs, discuter. Je sais que on ne dit pas caissière, mais la personne qui encaisse, qui s'appelle Nathalie, elle discute beaucoup, beaucoup avec le public sur les films qu'ils ont vus la semaine dernière. Elle connaît leurs prénoms. Je trouve qu'elle a une place assez chouette, en fait. C'est ce que j'aime bien.
Ce qui rapproche le plus avec le public.
Exactement, ouais.
Est-ce que tu as des difficultés dans ton métier? Je veux dire, des trucs qui ne sont pas forcément faciles à faire ou... pas comment expliquer.
La chose que je déteste le plus faire, parler au téléphone avec les distributeurs. Je crois que justement, ça rejoint un peu le truc de je vis devant mon ordi avec mon casque à regarder des films. Oui, discuter avec les distributeurs, négocier le nombre de séances, surtout quand le film a été mauvais, essayer de leur dire que ça a été mauvais, mais sans, tu vois. Je déteste le téléphone. J'ai mis une photo de Scream avec la première victime qui dit « Leave me alone » au téléphone. C'est vraiment ça. Je n'aime pas le téléphone, clairement.
Et le ciné Saint-Luc, du coup, il est connu pour diffuser des films d'auteur, à différence d'un cinéma comme Pathé, qui est plus axé sur des grosses productions. Vous faites comment pour choisir la programmation des films?
Déjà, on doit répondre à des critères d'exigence de films recommandés à réessai. Donc en fait, tous les mois, il y a un collège de recommandations qui est constitué d'une cinquantaine de personnes qui représentent tous les métiers du cinéma, donc acteurs, réalisateurs, programmateurs, distributeurs, critiques de cinéma, tout ça. Je retourne masculin depuis tout à l'heure, c'est affreux, je suis désolée. Et ces personnes-là vont voter et recommander des films qui sont à réessai ou pas. Alors, s'il te plaît, ne me demande pas ce qu'est un film à réessai, parce que personne n'est d'accord sur cette définition.
D'accord.
Donc un film recommandé à réessai, il rentre dans notre programmation. Alors, ça nous arrive de faire des exceptions quand on a vraiment envie de montrer, de faire des exceptions uniquement sur les ciné-clubs et les ciné-clubs, avec des films qui datent qui sont en général plutôt répertoires, même si du coup, comme ils n'ont pas été recommandés à RSL, ils ne sont pas répertoires. Mais pour les ciné-clubs, on se permet de temps en temps des exceptions qu'on évite autant que faire se peut. Mais c'est comme ça qu'on programme. Et après, je pense aussi que ça vient de notre sensibilité. Je pense que naturellement, on ne pourrait pas programmer des grosses prods, des gros trucs. On ne pourrait pas faire une programmation pâtée parce que ça ne nous ressemble pas, c'est pas nous.
Oui, puis c'est pas l'ADN du Ciné Saint-Leu.
Oui, c'est ça.
Et donc, parmi la programmation, j'ai vu que vous mettez en place un ciné-concert. C'est... Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que c'est et comment vous arrivez à mettre ça en place
Alors, c'est un ciné-concert du coup pour le jeune public, mais les grands peuvent venir aussi, il n'y a pas de problème. Alors, il faut juste que je le retrouve. Voilà, la cymbale et la fourmi. Donc, c'est en partenariat avec l'ACAP, qui est le pôle régional Images des Hauts-de-France, qui propose de faire venir des intervenants. Enfin, on fait plein d'ateliers avec eux assez régulièrement, parce qu'ils ont un beau répertoire et des bons contacts pour nous mettre en relation avec les artistes. Et là, c'est ce qui s'est passé. Ils nous ont mis en relation avec les artistes pour deux ciné-concerts, du coup, le mercredi 16 avril. Et c'est des musiciens qui vont, comme le nom l'indique, faire de la musique en même temps que le film.
D'accord. Et du coup, vous, au Ciné Saint-Leu, vous faites comment pour choisir les films? Parce que du coup, tout à l'heure, tu me disais que tu avais des films plus ou moins mauvais, mais tu dois quand même en diffuser certains. J'ai pas tout bien compris. Donc, comment tu fais, toi, pour dire ce film va passer ou pas?
Alors déjà, tout dépend pas que de nous, parce qu'il y a aussi... nous, on n'aime pas, mais le public peut aimer. Mmh. Voilà, donc oui, on pense aussi à vous qui venez voir les films. Comment on fait pour choisir? Bon, généralement, c'est hyper difficile parce qu'en fait, on n'a qu'une seule salle, déjà. Donc, on est obligé de refuser beaucoup de pépites. Et ça brise le cœur. Et voilà, en général, c'est des négociations, encore une fois, avec les distributeurs. Enfin, vraiment, ce que je déteste le plus faire dans mon métier, c'est vraiment négocier avec les distributeurs. Voilà, donc c'est des négociations avec les distributeurs sur le nombre de semaines, le nombre de séances. Si on prend un film un peu fort sur 3 semaines, malheureusement, ça va manger la place pour un film un peu plus faible, mais qu'on aime beaucoup. Enfin voilà, c'est vraiment un équilibre à trouver. J'espère que j'ai un peu répondu à ta question.
Oui. Et donc j'ai aussi vu dans la programmation d'avril que vous proposez une rétrospective de Wes Anderson. Ouais. Pourquoi vous avez choisi ce réalisateur pour ce mois?
Parce qu'en fait, son prochain film va sortir à la fin de cette rétrospective.
D'accord.
Et qu'on espère que cette rétrospective donnerait envie aux distributeurs de nous donner le film. Aussi parce que William Tessier est un gros forceur, donc depuis le temps qu'il veut Wes Anderson, voilà. mais oui, on aime beaucoup Wes Anderson. C'est un cinéaste recommandé à RSF pour la plupart du temps. Je crois qu'il y a une exception, mais pour un film qui date le premier film de sa carrière, je pense. Ça faisait assez longtemps que ça n'avait pas été fait. Je crois que ça a été fait genre en 2016 au cinéma Orson Welles. Et là, on s'est dit, le prochain film sort au mois de mai. On a pris goût aux rétrospectives. C'est vrai qu'on a fait Aki Kaurismäki il y a quelques années. On a fait du coup David Lynch. Enfin, il y a une envie, une appétence de faire des rétrospectives. On a vu aussi que ça plaisait beaucoup au public. Et trouver cette excuse du prochain film qui allait sortir pour remontrer toute sa filmographie, ben voilà, ça, on a saisi la perche.
Et du coup, en parlant de la rétrospective de Wes Anderson, est-ce que tu peux nous expliquer comment ça se passe l'organisation des séances pour un événement comme la rétrospective de Wes Anderson?
L'organisation, c'est-à-dire comment
vous décidez quel film va passer dans les films réalisés par Wes Anderson?
Alors là, je crois qu'on a tout pris.
D'accord.
On a tout pris. Il me semble, hein, ça se trouve, je suis en train de dire une bêtise, mais il me semble qu'on a tout. Et en fait, ce qu'on doit faire ensuite, c'est réserver chaque film auprès de ce qui n'ont pas les mêmes distributeurs.
D'accord.
Réserver les films auprès des distributeurs. Et là, on n'a pas eu de problème sur cette programmation-là. Tout était disponible, tout était OK. Voilà.
Mais sinon, pour d'autres rétrospectives, est-ce qu'il y a des arrangements à faire avec les distributeurs? Trouver des places, trouver le temps?
Non, en général, ce qui se passe, c'est qu'on leur donne, pas la date de projection, on leur donne la semaine de projection.
D'accord.
Je travaille comme ça, donc la semaine du mercredi temps, parce que ça commence aussi le mercredi, et le nombre de séances. Sinon, il faut juste trouver les distributeurs. Les distributeurs. C'est en fait le plus dur parfois, c'est de trouver les ayants droit. Ouais.
Ok. Donc, j'ai vu aussi que sur le Ciné Saint-Leu, il y a également de nombreuses séances spéciales. Il y a des ciné-débats, des rencontres, des ateliers pour grands ou pour plus jeunes publics. Peux-tu nous dire quel est l'intérêt pour le Ciné Saint-Leu d'organiser des moments avec le public, comme des rencontres ou des ateliers?
Bah, ça va rejoindre une de tes questions précédentes, c'est qu'on adore on adore notre public. Donc, leur proposer des animations, déjà, ça permet de... Il y a un truc pour le jeune public, quand on propose une animation après, c'est que ça permet encore au cerveau de travailler et de réfléchir sur ce qu'on vient de voir, et de les garder en souvenir. Pour certains enfants, c'est assez exceptionnel de venir au cinéma. Alors si en plus on repart avec quelque chose, on fait des ateliers par exemple stop motion, enfin c'est où ils fabriquent des petits films en une heure, enfin c'est formidable de pouvoir faire ça. Et puis bah pareil, les ciné-débats, tout ça rentre dans une envie, une vraie volonté en tout cas de rencontrer notre public. Nous on adore être au ciné, donc on adore traîner au ciné, donc rencontrer le public encore plus, et c'est voilà, c'est pour nous c'est hyper logique. Et par exemple, je me permets d'anticiper un petit peu peut-être sur une question future, mais on a un ciné club le Magicien d'Oz. Le ciné club, c'est pas forcément, enfin nous on a réservé la copie, mais c'est pas nous qui l'avons programmé, ce sont les étudiants ambassadeurs, dont Enzo, que tu as déjà reçu, me semble. Et ils avaient envie de faire un ciné-club sur les films de leur enfance. Et donc le premier, c'est Le Magicien d'Oz, par exemple. Et ça vient vraiment d'une envie, du coup, des étudiants, mais des étudiants qui étaient nos spectateurs et spectatrices avant d'être nos ambassadeurs, ambassadrices. Et ça, c'est hyper fort de... Enfin, je trouve que c'est hyper gratifiant de pouvoir donner cette place d'expression aux gens qui viennent tout le temps au Ciné Saint-Louis.
Et donc, pour finir, dans ce programme d'avril, est-ce que tu aurais un film que tu nous recommanderais à aller voir à tout prix pour nos auditeurs et auditrices?
Alors, c'est un programme qui est un peu dense. Il y a vraiment beaucoup de films qui passent parfois pas beaucoup, mais en tout cas, si vous n'avez pas assisté à l'avant-première de Cassandre le 29 mars en présence de la réalisatrice, nous on le reprend du 16 au 22 avril. C'est un très beau film, c'est un très beau premier film qui parle de sujets difficiles, qui parle d'inceste, on va dire le terme tout de suite. La réalisatrice est très présente sur les réseaux sociaux, elle a fait beaucoup de promos, donc vous pouvez aller l'écouter avant d'aller voir le film. Je la trouve hyper fascinante et hyper claire sur son propos. Le film, c'est pas juste un film qui parle d'inceste, c'est aussi un film qui parle d'émancipation, qui parle de grandir, en fait. C'est une jeune fille de 14 ans qui va grandir le temps d'un été, en connaissant des choses terribles, mais qui va grandir. Et c'est extrêmement bien mis en scène. Il y a des idées brillantes, de plans de caméra, de temporalité. Enfin, je trouve que c'est pas seulement un film qui parle d'un sujet, c'est aussi un film qui est extrêmement bien mis en scène, et ça, c'est un film de cinéma, quoi.
Bon, bah merci beaucoup, Angélique, pour cet échange.
Merci à toi.
On rappelle que Ciné Saint-Luc propose en avril une rétrospective de Wes Anderson, des ciné-débats et des séances pour tous les publics. Pour découvrir l'ensemble des films et événements du mois, rendez-vous sur le site ou sur l'application Ciné Saint-Luc ou directement sur place au 33 rue Van Marck.
On est tous morts, yes. Je crois que c'est mon ami. J'ai pas de sentiments dans tout le corps. Bébé aime l'aura de fantôme. Je sais que tu es cette dose. Je sais que tu es cette dose. Je sais que tu es cette dose. Dans une cage, je veux pas être mis. J'suis partout, mais j'ai pas d'ethnie. Je te déteste, bitch. Je te déteste, mais j'ai pas d'ennemis. Un dieu, un dieu, un et demi. Je sais que tu es cette dose. Je sais que tu es cette dose. Je sais que tu es cette dose. Pas derrière, pas devant. J'suis pas très joli, j'ai pas le temps. Et ils m'ont dit, fallait mieux que j'me vende. Comme si j'étais dans bateau plein de blanc. Kiffé, je veux pas encore. C'est tabassé, mais j'suis pas en tort. J'regarde pas derrière, pas devant. Même assumé, il a pas le crâne, bitch. Yeah. Oublie mon prénom.
Fuck you. Yeah.
J'suis sale dans la pénombre.
Fuck him. Yeah. Fuck all that shit. Bitch. Man, fuck everybody.
J'm'en fous de ce qu'ils disent. De toute façon, bientôt on est tous morts. Je crois que c'est mon ami. J'ai pas de sentiments dans tout le corps. Bébé aime l'aura de fantôme. Je sais que tu es cette dose. Je sais que tu es cette dose. je sais que tu sais.
J'suis jamais rêvé, j'ai planté ma cuillère à côté du bol, bol, bol. J'attends que le monde explose, du coup en attendant je scroll, scroll, scroll. T'as compté ce que tu donnes, et tu crois que t'es gentil. En tout cas j'ai compris que j'étais pas quand j'ai grandi. Si qu'on s'aimait, peut-être que j'ai menti. Le cœur vide, j'ai grossi, le cercueil sera rempli. J'veux pas vieillir, j'suis encore jeune. Peut-être que la vie peut être encore fun. Des bêtises, des voix sur trois portes. Mauvais plans sous les bons souvenirs que ça rapporte. Je prévois plus rien comme ça, je suis sûr qu'il y a aucune chance que ça capote. J'me sens aliéné, comme si on me guidait bizarre. Comme on regardait celui qui crapote. Yeah. Je m'en fous de ce qu'ils disent. De toute façon bientôt on va tout scanner. Moi j'aimais bien faire des bêtises. Mais maintenant les caméras elles peuvent tout scanner. Cette année j'ai fait de l'oser, j'en ai pas assez. Je pense comme si je voulais m'en débarrasser. En fait avec mes rêves de gosse et mes bêtes de potes qui sont tous cassés. Yo, fais pas beau, sinon elle m'aurait prévenu ma go. Je vois des morts, puis ados à travers les carreaux. Yo, smoking gelato. Yo, fumer la dope. J'serai le gogol, le plus riche de France comme René Lato. Waouh.
Bientôt on est tous morts. Je crois et crois que c'est mon ami. J'ai pas de sentiments dans tout le corps. Bébé aime loin de fantômes. Je sais que tu es cette dose. Je sais que tu es cette dose. Je sais que tu es cette dose.
Yeah, that's some lame shit on God. And you know what?
I'm out this beat.
Fuck Venom too quick. That shit lame as hell. Fuck Nick's Illusion. You know, fuck Houston especially. But some fancy shit, but fuck this message.
Vous êtes toujours sur Radio Campus Amiens, vous venez d'écouter Fantôme de Runa et Luther. Aujourd'hui, je voulais vous parler du printemps de l'art déco de la région des Hauts-de-France. Ça se passe du 4 avril au 1er juin 2025. Mais avant de vous présenter les événements des prochaines semaines à Amiens, je vous propose de faire un petit point histoire de l'art. Autour de 1910, les formes géométriques et la symétrie s'immiscent peu à peu dans les arts décoratifs et l'architecture. Les artistes européens développent une esthétique simplifiée. Mais l'art déco s'épanouit surtout dans l'entre-deux-guerres, alors que les villes détruites par la Première Guerre mondiale se reconstruisent. Face à ces paysages en ruine, les architectes et urbanistes entreprennent la restauration audacieuse des villes et créent des nouvelles façades résolument modernes. L'art déco s'implante progressivement, notamment dans les territoires du nord de la France, particulièrement touchés par les destructions de la guerre. Le tribut payé par les régions du nord est en effet considérable. Des villages sont rasés, des villes sont détruites jusqu'à 70% et amputées de leurs monuments. En 1919, lorsque sonne l'heure de la reconstruction, la question se pose de rebâtir à l'identique ou d'innover en ayant recours au jeune style moderne qui sera baptisé Art déco. C'est ainsi que cohabitent dans nos villes des façades classiques, des édifices régionalistes et des ouvrages nettement plus modernes aux lignes épurées, aux décors géométriques et aux angles coupés. Des architectes et urbanistes sont missionnés pour réinventer le tracé des villes comme Louis Dutoit à Amiens ou Pierre Le Prince Ringuet à Cambrai. On reconnaît également l'art déco à son usage massif du béton et de la brique, deux matériaux économiques et faciles à mettre en œuvre. Les beaux windows, des corbeilles de fleurs géométrisées sont sa marque de fabrique. L'art déco, c'est avant tout un style décoratif qui fait appel au métier d'art traditionnel. Les intérieurs sont lambrissés, le mobilier s'empare des bois exotiques et précieux. Les arts du feu sont à la mode, céramique, verre, fer forgé envahissent les maisons. La mosaïque et les bas-reliefs moulés enrichissent avec élégance et sobriété les façades et enseignes des boutiques par leurs couleurs, volumes et motifs travaillés. La lumière naturelle entre par les vitraux, verrières et portes vitrées. La ferronnerie s'empare des grilles, portails et garde-corps. L'art déco est l'incarnation d'un art de vivre moderne, de ces années folles qui font rayonner la France à l'international entre mode, métier d'art et technique. Les créateurs font de la modernité leur mot d'ordre. Nombre d'édifices de la région sont désormais connus bien au-delà des Hauts-de-France, la célèbre Villa Cavrois, construite par l'architecte du même nom, ou encore la piscine de Roubaix, aujourd'hui musée d'art et d'industrie. Avant de passer au programme, je finis par un petit dernier point culture. Souvent, on confond l'art nouveau et l'art déco. Voici des petits tips pour ne plus confondre. L'art nouveau, c'est tout en courbe et volute et il prédomine entre 1890 et 1910. Il célèbre en gros la nature foisonnante. Il reste très connu notamment pour les dessins d'Alphonse Mouchat et les entrées du métro d'Hector Guimard ou encore du côté de la Belgique pour les constructions de Victor Horta. L'exubérance et l'esthétique chargée de l'art nouveau lassent les créateurs et suscitent en réaction un retour à l'ordre. L'art déco vient avec des lignes plus géométriques et épurées. La ligne droite et les angles s'affirment dans le mobilier et les façades. Les motifs tendent à l'abstraction, la simplification, en témoignent notamment les spirales géométrisées, les motifs végétaux et floraux couramment forgés ou moulés sur les façades. Le printemps de l'art déco se donne l'objectif de sensibiliser la population et les visiteurs à ce patrimoine si présent dans les Hauts-de-France. Et pour ce faire, il y a plusieurs événements tout au long de ces mois qui sont organisés dans la ville d'Amiens. Et pour cette semaine, ça se passe globalement le samedi 12 avril. Une première visite guidée gratuite est proposée afin de découvrir l'architecture des nouvelles galeries d'Amiens. Rendez-vous à 10h devant les galeries Lafayette. Le même jour, mais cette fois à 11h, vous allez pouvoir découvrir le charme de l'église Saint-Maurice rue Turgot, notamment son décor en mosaïque. Il faut réserver à l'avance et c'est seulement 3 euros. Toujours samedi 12 avril, un atelier linogravure est organisé au centre culturel Léo Lagrange. Le rendez-vous est fixé à 14h et l'atelier dure 4 heures. Pour le prix, c'est 20 euros par personne et la réservation est obligatoire. Pour toutes les infos et les réservations et tout ça, il faut envoyer un mail à patrimoine@amiens-metropole.com ou téléphoner au 03 22 22 58 90. Voilà, c'est déjà la fin d'InfoClub Sandwich. Merci Benjamin d'avoir fait cette émission en ma compagnie. Comment ça s'est passé ta première interview?
J'étais un peu stressé, mais c'est redescendu. Puis ça s'est très bien passé, je suis content.
Ouais, c'était super intéressant et tout le monde était à l'aise.
Ouais.
Et ben on se quitte en musique avec Kerry Ellison du chanteur libanais Bachar Mahalife. Merci de nous avoir écoutés et à demain sur Radio Campus Amiens.
Europe, soli, mit, sini, sumu, soli, لأجلك لأجلك يا رب صمتي لأجلك لأجلك